Éric Pictet, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes directeur du bureau de Musinic & Co à Paris. On va parler avec vous du marché, notamment du crédit et du marché high yield, hein, marché à haut rendement, marché un peu spécifique. Avec ce qui s'est passé, la crise notamment sur les marchés actions au mois d'août, mais ça a touché, on le pense, tous les marchés. Est-ce que ce marché-là a lui aussi connu son heure de peur, on va dire, effectivement, est-ce qu'il a été épargné ou touché par la crise?
Alors, il a été effectivement touché, parce que quand vous regardez, depuis 1998, c'est en fait le sixième, entre le marché européen et américain, et le septième plus mauvais mois depuis 13 ans, et le plus mauvais mois depuis 25 ans au mois d'août. Hein, le marché américain a baissé en gros de 5,5% et le marché européen de 7 à 7,5%. Donc effectivement, oui, c'était un très mauvais mois et ça a été touché. Aussi en partie parce que vous aviez dans l'obligataire, il faut qu'il y ait, c'est un marché de bilénasque, donc il faut qu'il y ait une offre en face. Et puis le mois d'août n'est pas, il y a quand même des intervenants qui sont en vacances, même si certains sont revenus. Et le fait qu'il n'y ait pas d'intervenants en face a aussi accéléré un petit peu ce mouvement de baisse.
Donc il n'y a pas forcément eu du volume, mais il y a eu des écarts importants.
Exactement, parce que dans ces cas-là, c'est bien sûr l'acheteur qui fait la différence. On le voit même nous, hein, puisqu'on a eu des rachats bien sûr sur notre SICAV. Notre ratio était environ de 70% positif, c'est-à-dire 100 de souscription pour 30 de rachats jusqu'à fin juillet. Et puis au mois d'août, ça a été effectivement l'inverse, même si depuis quelques jours, on retrouve quelques souscriptions.
Quelque part, là, sur ce marché-là, comme sur les marchés actions, est-ce qu'on n'a pas oublié un certain nombre de risques qu'on a retrouvés au mois d'août, les risques sur les dettes souveraines, les risques de liquidité sur le marché? Finalement, ces risques s'étaient peut-être évaporés un peu trop vite en début d'année, et puis on a eu la crise grecque et les pays périphériques à nouveau, notamment en zone euro, et puis la dégradation de la note aux États-Unis. Finalement, des choses qui aurait pu être prévisible.
Tout à fait. Les risques, ça dépend de ce qu'on apprend, ce qu'on apprend pas. Les spreads en général, les spreads, c'est quoi? C'est en fait, on price une différence par rapport à un taux sans risque. Or, on peut se demander aujourd'hui quel est le taux sans risque, hein, puisque les États sont dans une situation extrêmement difficile. On était avant la crise du mois d'août, on va l'appeler ça comme ça, entre 500 et 550 de spread, ce qui était déjà un taux qui priçait des taux de défaut de 4 à 5. On est maintenant à des niveaux de spread de 700 à 750 qui priçaient des taux de défaut de 7 à 8, c'est-à-dire une petite récession. Et en fait, c'est ça le vrai point. C'est que maintenant, en fait, les marchés ont peur de quoi? D'une récession. Et aujourd'hui, finalement, le marché du high yield price une petite récession. Mais le problème, il est beaucoup plus politique et social qu'il n'est économique. Car les sociétés elles-mêmes se portent bien, elles se portent même mieux qu'il y a 3 ans, et donc elles ont un taux d'endettement inférieur à celui qu'il y a 3 ans.
La question, bien entendu, c'est de savoir si les marchés obligataires ont raison. Historiquement, ils ont eu quand même souvent raison par rapport aux marchés actions. Et donc, on aurait tendance à penser que ce qu'ils sont en train d'imaginer, le scénario qu'ils imaginent aujourd'hui, va peut-être se produire. En tout cas, c'est ce que pensent les pessimistes.
Alors si on est pessimiste, parce que quand on regarde depuis quelques jours, enfin sauf depuis 2 jours, mais pendant quelques jours la semaine dernière, vous avez le marché action qui est remonté et le marché du crédit continue à baisser. Ce qui en général, d'une certaine manière, n'est pas très bon signe. Donc soit on peut penser que ce qu'on vit aujourd'hui est les prémices finalement de 2008, avec des circonstances différentes, puisque l'endettement n'est pas au même endroit, hein, il est passé du privé au public. Soit, au contraire, il va y avoir effectivement un rattrapage. Ce qui est probable, c'est qu'on arrive dans une période de croissance molle, pas suffisante pour créer des emplois, ce qui va créer des tensions sociales. En Europe, il faut que les États baissent leurs dépenses. On a vu que l'État français grappillait un petit peu avec des augmentations d'impôts, mais très limitées. Mais c'est par l'autre côté qu'on peut effectivement baisser l'endettement, sachant qu'en Europe, on a un fort taux d'épargne qui peut compenser si les consommateurs ont reconfiance. Aux États-Unis, c'est l'inverse, il n'y a pas de taux d'épargne, mais il y a plus de latitude à augmenter les impôts si, bien sûr, l'État veut le faire.
Alors, les marchés ont beaucoup eu, enfin, ont eu de l'espoir, et d'ailleurs, les indices en ont profité quand il y a eu ces plans, notamment de la Réserve fédérale américaine. Alors, on voit des discussions, on voit des possibilités d'un troisième quantitative easing qui aura bien sûr de l'impact sur les marchés. On a l'impression aujourd'hui quand même que le 1 et le 2 n'ayant pas très bien marché, pour la croissance en tout cas, pour la croissance américaine, on ne voit pas en quoi le 3 aurait une baguette magique en quelque sorte pour redresser la croissance.
Alors la croissance, non, elle est plombée bien sûr par la dette. Elle est aussi un peu plombée par le fait que maintenant la valeur ajoutée est mieux répartie dans le monde et que par conséquent, c'est quand même la valeur ajoutée qui permet ensuite de rembourser ou d'alléger une dette. Or aujourd'hui, l'Asie, l'Inde, la Chine, le Brésil ne font pas que des t-shirts, hein. Ils sont des concurrents dans beaucoup de marchés. Donc ça, et puis vous avez un élément très important et fondamental qui est la démographie, hein, puisqu'on est dans des pays qui sont plutôt vieillissants, donc ça a aussi un impact important sur les dépenses et sur le dynamisme d'une nation. Cependant, il est très probable qu'on ait une croissance molle, accompagnée ou non d'inflation, ce qui serait un moyen d'ailleurs d'alléger la dette.
On reparle du scénario à la japonaise. Hein. Il y a 1 ou 2 ans, on en parlait et on le mettait de côté en disant non, la zone euro traversera pas, n'aura pas ce type de scénario. Aujourd'hui, on en reparle. Vous le considérez comment, vous? C'est-à-dire que oui, c'est peut-être ce scénario à la japonaise qui peut se produire dans la zone euro compte tenu des dettes dont on a parlé.
Alors il y a beaucoup de différences, on peut en citer deux. Hein, le fait, d'abord, un, l'Europe est quand même un pays moins vieillissant que les Japonais. L'épargne japonaise est complètement autonome, ce qui n'est pas le cas de la dette en Europe. Et aussi, on a un problème politique avec l'euro, donc on n'est pas qu'une seule nation. Donc il y a quand même des différences qui sont assez fondamentales, donc on ne peut pas tout à fait comparer les deux. Mais ce qu'il est possible, c'est que, et j'en reviens un petit peu sur ce qu'on fait nous, et je rebondis sur ce que vous avez dit, il est très probable qu'on reste avec une croissance molle, avec un peu d'inflation, parce que si on a de la déflation, là c'est très 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 mauvais, mais un peu d'inflation pour revenir sur le crédit et sur ce que l'on fait, un peu de croissance sans déflation, c'est vraiment un scénario qui est positif pour la classe d'actifs, pour caper le coupon, parce que, encore une fois, dans les 2 ans qui viennent, les entreprises n'ont pas besoin de refinancement. Et donc, il n'y a pas de raison que les taux de défaut augmentent.
Donc ça peut être dans une allocation d'actifs, ce sera peut-être le mot de conclusion, une manière de diversifier, alors qu'on voit beaucoup d'investisseurs hein, aujourd'hui, le franc suisse, l'or, le Bund allemand.
Mais les gens ne savent pas quoi faire, parce que finalement, tout ça, ce sont des classes d'actifs qui étaient un peu périphériques. Dans le périphérique devient le stratégique, donc c'est quand même un petit peu compliqué. Dans la classe d'actifs, encore une fois, bas investment grade, haut high yield, il y a encore des potentiels énormes, puisque peu de gens sont investis. Les émissions vont reprendre, il y a toujours cette désintermédiation qui continue, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais encore une fois, le gain en capital est plutôt derrière, on est revenu à des niveaux de petite récession, les spreads sont intéressants. Et on peut avoir des rendements réels, hein, au-dessus de l'inflation et des frais de gestion, ce qui est quand même peu le cas dans beaucoup de classes d'actifs.
Merci d'avoir fait le point avec nous sur ce marché, Eric Pictet. On rappelle que vous êtes donc directeur du bureau de Musinic & Co à Paris.
Merci Didier.